Radio Barque, 40e édition, 3e partie, avec l'invité de la rédaction aujourd'hui, Didier Collin-New, que l'on a déjà entendu un petit peu s'exprimer sur certains sujets. Mais là, bien entendu, c'est vous, Didier, qui avez la vedette, si je puis dire. Et alors, vous venez d'entendre Michel Santos s'exprimer sur ce que vous, entre parenthèses, devriez faire. Quel est l'avis de l'intéressé ?
Alors, je ne sais pas si c'est être la vedette de cette émission, mais le porte-parole du PREG, du département et de la région Languedoc-Roussillon, oui, je le crois. Nous, nous regardons avec la plus grande attention, bien sûr, tout ce qui se passe depuis quelques semaines. Notre président ne croit plus à un accord PS, donc bien sûr, je parle de Jean-Michel Baillet. Sylvia Pinel, donc la ministre, a rencontré le Premier ministre Manuel Valls pour lui faire part que dans le cadre de désaccords qui pourraient se produire avec l'EPS, elle était prête même à démissionner du ministère pour se consacrer pour les régionales et notamment cette grande région. Philippe Sorel, vous le savez, moi je suis très ami avec lui, je partage et je travaille avec lui d'ailleurs sur dans le cadre du Parlement des territoires où je pense que sa vision pragmatique du grand territoire avec deux métropoles, avec les pôles métropolitains, avec le rural et l'urbain sur les équilibres, me plaît fortement. Et avec Philippe, donc, nous partageons la même idéologie et la même philosophie de ce monde politique qui bouge et qui fluctue aujourd'hui. Et on voit sur ce sondage, alors c'est un peu la première question de Michel et la vôtre, Jean-Claude, on voit que ce sondage, donc, pratiquement, il est positionné à 9%. Midi Pyrénées 4%, Languedoc-Roussillon 14%, sur une déclaration de quelques jours. Donc vous voyez les marges qu'il peut produire. On s'aperçoit que la candidate du PS donc ne décolle pas. Donc là, gros problème donc au niveau de l'organisation, puisque candidature annoncée depuis des mois et des mois.
Oui, qui elle n'est pas une surprise du tout là par contre.
Donc non, mais la surprise c'est que donc elle ne capitalise pas plus de 40% sur une élection où on n'arrête pas de dire que la gauche devrait l'emporter. Donc trois blocs, trois tiers qui sont assez équilibrés. Philippe Sorel qui est voilà, qui est pas forcément d'embuscade, mais qui est prêt donc à s'investir et à s'engager. Nous, le PREG, donc, on est sur le terrain depuis maintenant deux mois avec Sylvia Pinel, où on organise donc une réflexion sur notre projet, notre programme, mais également donc on va à la rencontre de notre population pour leur expliquer la démarche du PREG.
À propos du PRG, vous aurez votre congrès en septembre, vers la mi-septembre. Vous attendrez ce moment-là, j'imagine, pour faire savoir quelle est la position définitive ?
Non. Le PRG souhaite, et puis aussi, je crois qu'il est important qu'on se positionne rapidement pour donc être dans l'organisation d'une campagne régionale qui va être courte, 4 mois. Et donc, pour travailler sur le projet, puisque en même temps, on parle bien de projet, on parle bien de nos habitants. Parce qu'on a tendance un peu à ne pas parler des habitants de notre territoire, de parler des organisations de partis. Nous, ce qui nous intéresse au PRG, c'est d'être actif, d'être très à l'écoute et surtout d'avoir un projet fédérateur. Ce qui nous plaît avec Philippe Sorel, c'est que donc le projet sur lequel j'ai aussi participé, donc est en phase avec une certaine idéologie. Et aujourd'hui, donc c'est vrai que nous sommes donc à quelques jours de nous positionner. Je vous rappelle que le 20 juillet, nous avons un conseil national. Et je vous rappelle également que le 8 juillet, il y avait une rencontre qui devait être donc une rencontre ferme et définitive avec nos alliés l'EPS.
Qui a été annulée.
Et vous savez qu'elle a été annulée. Ben pourquoi ? Parce que en fait, les dégâts collatéraux, hein, quand on se permet de dire que donc c'est un candidat qui a proposé une rencontre avec le secrétaire national Cambadélis au président Jean-Michel Baillet, je crois qu'il ne faut pas pousser plus loin, donc les relations, et là aujourd'hui je ne vous cache pas que les relations sont très très tendues avec le Parti Socialiste.
Donc le fait que Didier Collin-New, responsable au doigt notamment du PRG, soit sur une liste, alors Sorel entre guillemets, c'est pas absurde, c'est pas inconcevable, aujourd'hui.
Aujourd'hui, rien n'est fermé. Hein. Nous sommes toujours très ouverts, donc à savoir avec qui nous allons nous travailler, avec qui donc nous allons quelle formation nous allons rejoindre, comme mot d'ordre avec notre président et avec Sylvia Pinel, c'est de créer une liste autonome. D'ailleurs, sur le sondage, je vous rappelle qu'il y a 8 listes. Et si vous vous rappelez, pour les dernières élections régionales, en 2010, il n'y en avait 11. Donc, d'autres possibilités de listes ou de fusions. Donc, je pense que ce sera dans quelques jours que ça va se passer.
Oui, sur ce sondage, vous n'apparaissez pas. Je veux dire, le PRG, pour le moment, n'apparaît pas en tant que tel. Michel, une remarque.
Oui, parce que pour aller dans le sens de Didier, et après ma première et rapide analyse, Sorel, aujourd'hui, en fait, comme il vient d'être dit, ne peut que progresser, incontestablement, sera largement au-dessus des 9% annoncés, ça me paraît évident.
Et des 10% nécessaires pour se maintenir le cas échéant.
Exactement, ça veut dire que il détient la clé, effectivement, des fusions éventuelles au second tour, mais aussi de la future présidence. C'est clair, à gauche en tout cas. Hein, c'est clair. Deuxièmement, ce qui m'a surpris dans les réactions de certains Montpelliérains, un fréchiste avéré, Didier Le Fut en son temps, c'est de s'étonner que Philippe Sorel face du fréchisme. Cette campagne, quand même, ressemble étrangement, en fait, à celle de Georges Frêche, quand même. Qui a gagné avec qui? Avec toute une série de gens qui avaient été mis en dehors du parti, en fait, ou qui avaient été carrément exclus, je parle du premier, en l'espèce de Georges Frêche, du Parti Socialiste. Et après, effectivement, tout le monde s'est rallié à gauche autour de lui. C'est en train de se passer comme cela.
Ça veut dire qu'il ratisse très large.
Mais bien sûr, mais Georges Frêche a toujours été élu sur Montpellier par une large fraction de la droite montpelliéraine. Je parle de l'électorat,
ça n'est pas un secret.
C'est pas un secret pour personne. En fait, l'électorat de Georges Frêche allait largement au-delà du noyau dur de l'électorat de gauche, largement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a toujours été élu. Donc, Sorel, qui depuis 20 ans, en fait, est derrière, observe, analyse, en fait, a appris de Georges Frêche, fait exactement la même chose.
Fait du Frêche. Alors, Didier Collorgnoux, votre point de vue.
Oui, mais je suis bien placé aussi pour parler donc de l'élan et de Georges Frêche, puisque moi j'étais le premier socialiste à cette époque-là, donc à mener la liste. Et puis après, donc, comme vous le savez, nous avons été écartés et nous sommes partis seuls contre tous. Et au premier tour, nous avons dépassé les 50%. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai connu, bien sûr, 2004, où on était dans le cadre de l'Union de toutes. Ce qui manque aujourd'hui au parti, et notamment au Parti Socialiste, c'est ces accords donc qui permettent à la gauche de se retrouver. Et on le voit avec le Front de Gauche, on le voit avec les Verts. Donc c'est vraiment très très... Nous sommes dans une situation extrêmement compliquée. Ce que dit Michel, donc il a raison, et je pense très sincèrement que la gauche gagnera la grande région. Mais par contre, au niveau de la présidence...
La gauche,
au niveau
sous quelle forme, voilà. Quelle gauche?
Et c'est là où il y a un deuxième enjeu, c'est l'organisation sur l'exécutif. Il y a le deuxième tour, donc parce que il suffit pas de faire alliance avec un mouvement ou un parti. C'est le deuxième tour, c'est les accords, et puis derrière, c'est la présidence. Et c'est là où ça se complique, et c'est pour ça que Philippe Sorel, donc la démarche de Philippe, elle est intelligente, elle est habile. Moi, je lui fais confiance pour donc sur cette campagne, pour se positionner d'une manière encore plus claire dans le cadre du grand rassemblement. Et aujourd'hui, nous, les radicaux, nous sommes donc donc en attente sur les deux options, mais surtout d'être très impliqué, bien sûr dans l'exécutif, mais très impliqué dans le dispositif, parce que moi, j'aimerais quand même qu'on revienne sur le contenu, et c'est ce qui manque de plus en plus, et ce qui préoccupe les populations. C'est pour ça que le Front National est toujours très très haut, parce qu'en fait, on ne se préoccupe pas assez, d'une manière extrêmement forte, de l'inquiétude de nos populations. Et puis, vous savez que le FN donc fait des campagnes très très populistes.
Le FN qui, sur ce sondage, est au premier tour très largement en tête.
Bien sûr.
Tout à fait, mais c'est un peu ce qui se passe sur les autres élections départementales et même donc locales. Mais moi, j'ai confiance aux forces de gauche pour se réunir donc et faire une élection qui soit liée aux enjeux de cette grande région qui devient donc une région avec un potentiel considérable, pratiquement donc 1 milliard d'euros par an d'investissement, donc une belle machine.
Alors, nous en reparlerons bien entendu à la rentrée, à notre radio-barque de la rentrée. Un dernier mot peut-être, Didier Codorniou, puisque vous êtes aussi maire de Gruissan. Il y a un phénomène qui empoisonne un certain nombre de mairies ces temps-ci. Alors, je parlerai pas de tourisme, ça serait du mauvais esprit, mais ce sont ce qu'on appelle les gens du voyage qui arrivent, qui s'installent inopinément, assez souvent en causant un certain nombre de dégâts. Et apparemment, les maires semblent impuissant pour, disons simplement, faire quelque chose.
Les maires et les présidents d'agglo.
Et les présidents d'agglo aussi, bien sûr.
Oui, non, c'est des situations très très difficiles parce que, bon, pour faire court, il existe un schéma départemental, donc, qui est acté avec des aires d'accueil, des aires de passage, de grands passages.
Qui existent et qui sont légales,
mais les évangélistes ou les gens du voyage
N'en veulent pas.
Et bien sûr, on les comprend qu'ils veuillent rentrer dans les stades, donc, avec tout ce que ça comporte. Non, moi, je suis, très très révolté et très en colère parce que il existe des recours, il existe des procédures juridiques qu'on a déclenchées et en fait derrière il n'y a pas suffisamment de moyens pour faire évacuer donc ces gens qui occupent dans des domaines privés, publics où ils ont cassé des portails, déplacé des rochers, etc. et qu'on puisse rien leur faire. Et moi, je vous signale
que... Oui, parce qu'ils ne sont pas totalement dans la légalité.
Non, ils sont dans l'illégalité, mais par contre, on les laisse faire et du moins, on ne se donne pas les moyens pour les évacuer. Et là, c'est là où il y a un vrai problème lié donc à la sociologie, lié aussi à l'exaspération de nos populations. Et puis aussi, quand ils sont venus à Gruissan, comme ils sont aujourd'hui à Coursan, j'ai insisté sur les formes de pollution par rapport à l'étang de Gruissan, puisqu'en même temps, donc, au niveau des excréments, et, etc., donc sur le plan de l'hygiène, il peut y avoir des pollutions. Et je vous signale que nous, on a pratiquement une trentaine de familles de pêcheurs qui vivent donc de la pêche, notamment des petits métiers dans l'étang.
Et qui risquent d'être impactés.
C'est vraiment très, très compliqué.
Voilà, mais on a, vous l'avez souligné, ils sont dans l'illégalité. On a l'impression que le gouvernement n'a pas trop envie de bouger finalement, puisque c'est du ressort de la police nationale dans ces cas-là.
Oui, mais
et de la justice.
Non, c'est après un problème de moyens, de force de l'ordre, donc mobiliser suffisamment de CRS ou de gendarmes pour les faire.
Oui, mais ça c'est une volonté politique. Quand on veut les mobiliser, on sait le faire. Oui.
Mais là, nous on a été très surpris d'ailleurs quand ils sont venus à Gruissan, ils étaient même escortés et on les a orientés sur le bois de l'étang. Donc voilà, moi j'ai pas très très bien compris. J'étais prêt à barrer l'accès de Gruissan, même si on sait très bien que rien ne leur fait peur, ils sont capables de rester pendant des heures et des heures, de complètement tout bloquer, ce qui s'est passé d'ailleurs sur les grands périphes, que ce soit Toulouse ou à Bordeaux, ou dans les grandes villes. Mais nous sommes fatigués, et là, comme vient de le dire Michel, le président de l'Aglo, les maires que nous sommes complètement impuissants par rapport à ce problème qui, chaque année, donc, est récurrent.
Et comme vous disiez, rien ne leur fait peur, ce qui explique que, d'autant plus que vous soyez impuissant dans ce genre de situation.
Oui, ça vous parlait des provocations après, à l'insu des élus, des forces de l'ordre, des policiers. Enfin, c'est vraiment, c'est très très sensible ce dossier. Et, moi, j'en ai fait part plusieurs fois, donc, bien sûr au président et au préfet, parce que ça devient insupportable.
Eh bien, c'est là-dessus que nous allons conclure à l'orée de l'été. C'est peut-être la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y aura d'autres endroits, d'autres maires, d'autres communes qui vont en souffrir.
Sans doute,
voilà. Oui. En ce qui vous concerne, Didier Codorniou, on l'a sous-entendu tout à l'heure, vous aurez du pain sur la planche dès la rentrée, d'ailleurs tout l'été également. Alors j'espère qu'on vous retrouvera à ce micro à la rentrée pour en savoir un petit peu plus, puisque là, vous serez dans le feu, si je puis dire, de l'action.
Merci, je viendrai avec grand plaisir.
Merci à vous. Et je vous souhaite, alors, à tous les auditeurs de Radio Barque, bien évidemment, à Michel Santo, à tous nos invités de cette année, un excellent été. Et je donne rendez-vous, donc, à la rentrée de septembre.
Mais je fais comme toi, Jean-Claude. Rendez-vous en septembre.
Très bon été.
Merci, au revoir.
Didier. Merci.